catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du père directeur.
Salut fidèles auditeurs, merci de rester fidèles sur Radio Maria. Monsieur l'abbé Philbert, qui est déjà avec nous, va devoir nous proposer des enseignements très importants autour d'un thème qui se conforme à l'actualité que nous vivons dans notre pays. Bonjour Monsieur l'abbé Philbert.
Bonjour à toi Daniel, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos internautes et bienvenue à cette catéchèse où nous allons ensemble apprendre à bien vivre ensemble.
Je disais que le thème s'inscrit parfaitement dans la situation actuelle de notre pays. Il s'agit du bien vivre ensemble, condition pour la paix, contexte biblique et historique, c'est cela.
Tu l'as dit, Daniel, c'est le thème que nous allons développer au cours de cette catéchèse.
Ainsi, fidèles auditeurs, nous allons devoir nous disposer pour la prière, en commençant par l'invocation de l'Esprit-Saint. Monsieur l'abbé, pour la prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce studio pour apprendre à vivre ensemble selon ta volonté. Dans un monde divisé, dans notre pays en guerre, spécialement dans sa partie est, nous te demandons de nous guider vers l'harmonie, le respect mutuel et la solidarité. Inspire nos cœurs à aimer notre prochain comme toi, tu nous aimes, et à bâtir des ponts de paix là où il y a des murs de séparation. Que ton Esprit Saint soit notre guide tout au long de cette catéchèse, afin que nous puissions grandir dans la foi et dans l'amour fraternel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Monsieur l'Abbé, fidèles auditeurs, pour votre prise de parole après l'exposé de Monsieur l'Abbé. Passez, comme d'habitude, par les 089-10-32-954. Le bien vivre ensemble, condition pour la paix, contexte biblique et historique, c'est le thème de cette catéchèse. Monsieur l'abbé, vous avez la parole.
Merci pour la parole et à tous nos auditeurs, à tous nos internautes, bonne condition d'écoute. Le bien vivre ensemble, condition pour la paix. Nous allons voir les contextes bibliques, contextes historiques, et surtout le contexte social chez nous, en RD Congo, spécialement dans la partie Est. Chers fidèles auditeurs, chers internautes, ici il s'agit d'accepter les divergences d'opinions et de croyances. Ceux qui nous agressent, ils ont leurs opinions, ils ont leurs raisons. Voilà pourquoi nous devons être tolérants, c'est-à-dire nous mettre autour d'une table avec eux, les écouter, connaître leurs opinions, connaître leurs motivations et voir dans quelle mesure parler avec eux. Dans la Bible, nous trouvons aussi des enseignements sur le bien vivre ensemble. D'abord, dès le départ, la création. Dans la création, on peut déjà lire cette interdépendance humaine. Dans le livre de la Genèse, Dieu déclare ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On voit ça dans Genèse chapitre 2, verset 18. Déjà, ce passage souligne l'importance des relations humaines et de la communauté. Il n'est pas bon. Donc, c'est inadmissible que l'homme puisse vivre seul. Même si c'est ton village, même si c'est ta terre à toi, qui est ayant droit, il est inconcevable que tu puisses vivre seul. Cette interdépendance est renforcée par l'idée que l'humanité est créée à l'image de Dieu, appelant à vivre en harmonie et en solidarité. Déjà, Dieu, lui, qui a créé l'humanité, Dieu qui a placé l'homme au centre de l'humanité, a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, il faut toujours ouvrir son cœur, aller vers l'autre, vivre avec l'autre, communier avec l'autre, évoluer avec le prochain. Alors, il y a les commandements de l'amour. Jésus enseigne l'amour du prochain comme fondement du bien vivre ensemble. Dans Matthieu 22, verset 39, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour, chers fidèles auditeurs, chers internautes, transcende les frontières sociales et ethniques. Cet amour nous appelle à une coexistence pacifique. Déjà dans la Bible, dans Genèse chapitre 45, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph et ses frères. Ce passage illustre un exemple de réconciliation après des conflits familiaux, mettant en lumière évidemment le pardon et la restauration des relations. Il est donc important de vivre ensemble. Il est important de se réconcilier. Il est important de pardonner à celui qui nous a causé du tort. Chez nous, en RDC, par exemple, le bien vivre ensemble peut être un moyen, d'abord pour l'unification du pays, et pour l'instauration de la paix. Nous savons que nous avons une diversité ethnique et culturelle. La RDC est caractérisée par une riche diversité ethnique et culturelle, avec plus ou moins 200 groupes ethniques. Chers fidèles auditeurs, chers internautes, cette pluralité offre un potentiel pour les vivre ensemble. Mais elle a également, nous le savons, été source de tensions et de conflits, exacerbés par des facteurs historiques et politiques. En RDC, on a aussi vécu des conflits et des divisions sociales. Les conflits armés, notamment dans l'Est actuellement, ont engendré des divisions profondes au sein de notre société. On a entendu les discours de haine, des discriminations qui ont essayé de saper la cohésion sociale, rendant les vivre ensemble un défi majeur. Voilà pourquoi il est important qu'il y ait des initiatives pour la paix. Ça doit être au niveau local, chez nous en RDC, au niveau international, avec les démarches diplomatiques qui œuvrent pour promouvoir le bien-vivre ensemble. C'est là qu'il faut mettre en place certaines stratégies. Il faut des stratégies pour faciliter le bien-vivre ensemble. Beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas la démarche de la Conférence épiscopale nationale du Congo et menée conjointement, évidemment, avec l'Église du Christ au Congo, ECC. Alors, donc je disais qu'il faut des initiatives pour promouvoir effectivement les vivre ensemble. Par exemple, il faut des programmes éducatifs, c'est-à-dire des initiatives telles que les programmes qui apprend à nos populations l'importance de vivre ensemble. Apprendre pour la paix. Programmes qui peuvent ou qui peuvent viser à améliorer l'éducation en matière de consolidation de la paix. En particulier dans les régions à risque ou touchées par les conflits, par la guerre. On doit apprendre cela. Les gens doivent savoir qu'il est important de s'impliquer dans certaines actions qui mènent à la paix. L'engagement des jeunes. Des jeunes comme beaucoup d'initiatives, beaucoup d'ONG peut-être organisent cela à l'Est. Les jeunes, j'allais dire, doivent s'engager activement pour la paix et les vivre ensemble, malgré les traumatismes peut-être qu'on est en train de vivre. Mais il faut des initiatives pour mettre les jeunes ensemble, des initiatives pour sensibiliser les jeunes, les initiatives pour pousser les jeunes à travailler pour la paix. On ne doit pas abandonner les jeunes comme ça. Les ONG sont là, les églises sont là, et beaucoup d'autres organisations sociales sont là. Mais aussi, il faut des initiatives au niveau religieux, dans les églises. Ici, j'ai parlé tantôt de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui est dans une démarche pour faire comprendre à tout le monde leur projet de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les pays des Grands Lacs. Ici, il est question de mobiliser les communautés, amener tout le monde à comprendre l'importance de conclure un pacte social pour la paix. Mobiliser les communautés pour que la paix et la cohésion sociale deviennent une réalité. Dans la Bible, lorsque nous lisons le psaume 133, on nous dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Voilà. Ces psaumes, frères et sœurs, célèbrent l'harmonie fraternelle et la bénédiction qui en découle. Lorsque les frères se mettent ensemble, lorsque les frères se décident de vivre en communauté, eh bien, il y a des bénédictions. D'ailleurs, le Christ lui-même dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là où deux ou trois s'aiment, là où deux ou trois s'efforcent de mettre en pratique les recommandations bibliques, eh bien, moi, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est le Christ qui nous le dit. Il y a aussi la parabole du bon samaritain. Dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, Jésus enseigne l'amour du prochain sans distinction. Cette parabole illustre les principes du vivre ensemble. C'est là au-delà des barrières sociales et ethniques. Vivre ensemble. Aujourd'hui, dans notre pays, il faudrait que nous puissions comprendre l'importance de cette notion, les vivre ensemble. Comment parvenir à la paix? Comment créer la cohésion sociale? Si et seulement si on ne comprend pas l'importance de se mettre ensemble, de se comprendre, de se décider d'enterrer la hache de guerre pour que nous puissions construire notre pays et pourquoi pas notre vie. Vivre ensemble, chers fidèles auditeurs, chers internautes, est un principe fondamental pour la paix. Un principe fondamental pour la cohésion sociale. Et cela, comme nous venons de le voir, est ancré dans les enseignements bibliques. Et nous avons vu des exemples. Dans notre pays, la RDC, malgré les défis posés par la diversité et les conflits, nous devons déployer les efforts à la suite des évêques, à la suite de nos frères et sœurs de l'Église du Christ au Congo. Il faut des efforts qui doivent être déployés pour promouvoir ces principes. Et puisque nous prions, la majorité de la population congolaise prie, hein? On se déclare chrétien, ou mieux, croyant. Donc nous croyons en Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à faire nôtre, n'est-ce pas, ces principes fondamentaux. Nous devons nous inspirer des exemples bibliques. Nous les avons donnés. Il y a des valeurs bibliques. Il y a des recommandations du Christ. Aimer les ennemis. Il faut soutenir les vulnérables, les faibles, les pauvres, ceux qui souffrent. Il y a dans l'histoire beaucoup d'exemples qui illustrent, n'est-ce pas, ces principes fondamentaux. Il faut une coexistence pacifique. Il est donc essentiel, chers fidèles auditeurs, frères et sœurs, de continuer à encourager le respect mutuel, la solidarité, la tolérance pour construire une société plus harmonieuse et une société pacifique. Il est donc impératif de continuer à promouvoir l'éducation à la paix, les dialogues interculturels, et même sur les plans politiques et la solidarité pour réaliser pleinement les potentiels d'y vivre ensemble.
Fidèles auditeurs, vous avez là suivi l'exposé de M. Nabé sur ces thèmes très importants, comme nous l'avons dit, les bien vivre ensemble, conditions pour la paix, contexte biblique et historique. Nous allons à présent vous donner la parole comme d'habitude, mais bien avant cela, nous allons prendre une toute petite pause. Merci beaucoup, Virginie Tsakala, 089-1032-954, c'est le numéro, je rappelle, par lequel vous pouvez intervenir. Nous allons prendre la toute première question. Bonjour, M. l'abbé Philibert et M. Daniel, merci, M. l'abbé, pour cette belle catéchèse et surtout les thèmes du jour sur le vivre ensemble. Trois petites préoccupations, M. l'abbé. Monsieur l'abbé, peut-on vivre ensemble par ironie? Quels sont les signes qui montrent qu'il y a vraiment le vivre ensemble dans notre vie? C'est la deuxième question. Et la troisième, que dit la Bible à propos de la paix durable et sur le vivre ensemble? Où peut-on bâtir la paix durable dans notre vie de tous les jours? La question est de Maestro Martin Marie Ngalula depuis la paroisse Sainte-Marie de l'Assomption, aumônerie militaire de Canredjaf.
Merci beaucoup à notre frère Maestro Ngalula pour vos trois préoccupations. D'abord, vous me demandez si on peut vivre ensemble par ironie. Eh bien, l'ironie d'abord c'est une figure de style qui consiste à exprimer une idée en disant le contraire de ce que l'on pense. Voyez, donc ce que tu penses, ce n'est pas cela que tu dis, mais tu dis autre chose. Et on le fait dans le but de se moquer de quelqu'un. Alors, je me demande vraiment comment, lorsqu'il s'agit de bien, j'ai bien dit bien vivre, donc les vivre ensemble, on ne doit pas faire semblant. C'est vraiment un principe important et capital si nous voulons la paix. Ici, il faut pas faire de l'ironie. Non. Il faut vraiment être vrai et être sincère. Voilà pourquoi peut-être je peux aller directement à votre deuxième question quand vous parlez de signes. Les signes, par exemple, il faut une communication vraie et sincère. Donc, il n'est pas question ici de l'ironie, mais il faut vraiment être vrai. Une communication ouverte, une communication respectueuse. Si vous avez suivi mon exposé, j'ai dit tout au début, je l'ai dit que ces principes reposent sur des valeurs. J'ai parlé du respect mutuel. Reconnaître et valoriser les différences culturelles, ethniques, sociales. Et donc, il faut une communication vraie et sincère. Vivre ensemble implique aussi de partager les responsabilités quotidiennes. Vous êtes deux, vous êtes trois, vous vous opposez à cause des charges. Bon, mettez-vous autour d'une table et puis vous partagez les responsabilités. Toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela, toi, tu fais cela. Rappelons-nous la tour de Babel dans la Bible. Vous voyez? Alors, il y a aussi comme signe le respect de l'autre. Il est crucial de respecter chacun. On ne peut pas vivre ensemble lorsque on ne se respecte pas mutuellement, lorsque on ne considère pas l'autre. Regardez par exemple dans un couple. Le manque de respect peut entraîner les divorces dans un couple. Lorsque la femme, par exemple, ne se sent pas respectée par son mari. Son mari lui parle n'importe comment. Son mari lui pose des actes parfois que la femme n'accepte pas. Donc, il est essentiel de se respecter mutuellement. Et puis, un autre signe, c'est que lorsque vous voulez atteindre des objectifs communs et que vous êtes mis autour d'une table, vous avez le temps de dialoguer, la possibilité de dialoguer, les signes importants, c'est que il faut respecter les engagements que vous prenez mutuellement par rapport aux objectifs que vous avez à atteindre. En d'autres termes, que votre oui soit oui. Quand vous dites oui, on dépose les armes. Eh bien, effectivement, il faut déposer les armes dans le but d'instaurer la paix. Et être clair, être clair de peut-être ensemble, de bien gérer n'est-ce pas vos différences? Vous voyez? Donc voilà autant de signes hein, que nous pouvons retenir par rapport à ces grands principes. Parce que lorsque cela n'est pas accompagné par des actes concrets, il s'agit vraiment ici de la vie. Hein. Donc, il faut des actes concrets pour parvenir à cette réalité de vivre ensemble qui peut conduire à la paix. Alors, que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible, je crois que j'ai donné ici quelques passages. D'abord, j'ai parlé de la création. Dieu lui-même, déjà, quand il a créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Hein. Voilà pourquoi il a créé la femme. Voilà déjà Dieu qui nous donne les points de départ sur les vivre ensemble. Alors, dans la Bible, nous voyons encore, il y a beaucoup de passages. Par exemple, quand Saint Paul nous donne l'image du corps, l'unité du corps, dans 1 Corinthiens 12 à 14, quand il dit que l'Église est comme un corps humain, il met à l'avant-plan l'interdépendance de ses membres. Vous voyez? Chaque membre a son rôle, mais tous les membres forment un seul corps. Donc, la Bible nous invite à cela. Vivre l'unité. Dans la société, si nous voulons que les choses marchent bien, chacun doit jouer son rôle, mais on ne doit pas oublier que nous formons tous un même pays. Jésus a donné un commandement nouveau à ses disciples. C'est aussi une notion sur le vivre ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Voyez, donc l'amour du prochain, cet amour du prochain est capital. Faut vous aimer les uns et les autres comme lui-même le Christ nous a aidés, nous a aimés plutôt. La Bible nous parle aussi de la réconciliation et du pardon. Si nous voulons vivre ensemble, nous devons nous pardonner mutuellement et puis prendre la décision de vivre ensemble, de cheminer ensemble, de continuer la route. Il faut se pardonner mutuellement et continuer. Mais il y a aussi des encouragements hein, mutuels qu'on doit se faire. Quand Saint Paul, dans 1 Corinthiens 5, 11, dit que je vous exhorte à vous édifier mutuellement, comme vous le faites déjà, l'encouragement mutuel. Gérer ensemble les conflits. Vous voyez? Donc, la Bible nous donne beaucoup d'exemples à ces sujets. Si nous mettons cela en pratique, eh bien, les vivre ensemble, les bien vivre ensemble, devient une réalité.
Voilà, nous allons prendre une deuxième question. Bonjour, monsieur l'abbé, et merci pour la catéchèse. Monsieur l'abbé, comment rendre possible de vivre ensemble lorsque vous êtes en face de quelqu'un, pour notre cas, à Goma, vous êtes en face d'un peuple qui ne vient pas pour l'interdépendance, mais pour vous soumettre à la domination. Deuxième question, quelles sont les stratégies à mettre ensemble pour éviter cette forme d'esclavage? Parler, dialoguer, c'est bien, mais que faire concrètement pour échapper à ces plans d'esclavage?
Je crois qu'il n'a pas donné les noms.
La question est de la sœur Gisèle Niababa. à partir de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel à Goma.
Merci beaucoup, notre sœur Gisèle, pour votre question ou pour vos deux questions. Comment rendre possible le vivre ensemble lorsque vous êtes en face d'un peuple ou de quelqu'un qui vient pour vous dominer? Et la deuxième question, ce que vous voulez que je vous donne des stratégies. D'abord, pour rendre possible vivre ensemble avec quelqu'un qui vous domine, cela peut être vraiment un défi. Un défi, ce n'est pas facile. Mais la Bible nous donne quelques exemples. Par exemple, dans Philippiens chapitre 2, verset 3-4, nous sommes invités à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Saint Paul dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Considérez les autres comme plus considérables que vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, qu'il regarde aussi les intérêts des autres. Donc, la première chose, c'est l'humilité. Regardez le Christ devant ses bourreaux. Ils sont venus avec des lances, tout ça, pour l'arrêter, tout ça. Mais Jésus répond par simple humilité. La deuxième chose, pour que cela devienne possible, nous sommes toujours dans les comment parvenir à rendre possible le vivre ensemble. La deuxième démarche consiste à la réconciliation par les dialogues. Quelqu'un vient et dit, bon, mettons-nous autour d'une table, parlons. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviens. Et la troisième chose à faire, c'est qu'il faut être témoin de paix, sans se soumettre à l'injustice. Toujours Jésus, dans Matthieu 5, 39, nous dit, mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Cette parole ne signifie pas tolérer l'injustice ou la domination, comme vous le dites, mais résister à la tentation de répondre par la violence ou la colère. Il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Hein, il faut être réfléchi, il faut être pacifique. Il faut tout faire, hein, par tous les moyens possibles, pour empêcher l'autre d'être violent vis-à-vis. Alors, il faut vraiment tenir aux engagements. Il faut tenir aux engagements. Voilà ce que je pouvais dire à notre sœur par rapport à sa première question. Alors, la deuxième, tu parles, quelles sont les stratégies, hein, les stratégies à mettre sur pied pour parvenir au vivre ensemble. Je crois que j'ai donné quelques stratégies quand j'ai parlé des initiatives, pour la paix. Il y a plusieurs stratégies. Je vous ai dit qu'il faut, parmi les défis, il faut des programmes éducatifs, hein, promouvoir l'éducation à la paix et à la tolérance. Il faut vraiment former les jeunes générations au respect des différences, à la solidarité, surtout des vulnérables. Il faut passer par des programmes scolaires ou même extrascolaires pour enseigner les principes du bien vivre ensemble. Il faut aussi sensibiliser les populations sur les droits humains. Hein, il faut organiser des campagnes sur les droits de l'homme, sur la dignité humaine. Et dans ces campagnes, expliquer l'importance de vivre ensemble malgré les différences culturelles, ethniques ou religieuses. Il faut vivre ensemble. Il faut aussi favoriser la médiation et la réconciliation. hein, créer des espaces de dialogue au niveau des quartiers, au niveau des associations, au niveau des églises, pour favoriser, n'est-ce pas, la médiation ou la réconciliation, j'allais dire. Encourager les initiatives prises. Par exemple, maintenant, là, il y a nos évêques qui ont pris une initiative. Hein, ils veulent que nous puissions conclure un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Voilà, nous devons encourager ces initiatives-là. Chercher à bien comprendre les objectifs visés par nos pères. Bien comprendre cela et nous impliquer, parce qu'il s'agit ici de notre pays à sauver. Alors, il y a aussi des initiatives allant dans le sens de la justice sociale et l'égalité. Vous voyez, il faut vraiment combattre les injustices, les inégalités sociales. Il faut faire en sorte que chacun se retrouve. Hein, lutter contre tout ça. Et puis, encourager l'inclusion des marginalisés. Donc, il ne faut pas marginaliser les autres. Nous devons tous nous mettre ensemble pour parvenir à la paix. Et puis, il faut encourager la solidarité. Hein? Par exemple, maintenant, nos frères à l'Est qui souffrent, vous qui êtes à Goma, eh bien, il faut une certaine solidarité, une proximité. Par exemple, Radio Maria organise déjà des prières pour la paix. Vous voyez, c'est chaque jour qu'il y a une messe pour la paix qui part d'une station ou sous-station. Voilà, il faut des initiatives comme ça. Lubumbashi va organiser une prière écuménique. Hein? Demain, nous aurons une prière écuménique à Lubumbashi. Il faut des initiatives comme ça. Hein? C'est la paix favorisée ou favorisée. Disons, cette cohésion dont nous avons besoin. Voilà autant des stratégies qu'on peut prendre si nous voulons que le vivre ensemble devienne une réalité.
Merci beaucoup, M. Abin. Nous allons prendre cette note vocale qui nous vient d'un de nos auditeurs.
Bonjour, Daniel. Bonjour, monsieur l'abbé, merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Hein. Bon, le contraire du bien vivre ensemble, c'est plutôt le conflit. D'où ma question. Le conflit, est-ce une forme de relation naturelle ou c'est plutôt un échec des relations? Et si vous dites que le conflit n'est pas une forme de relation naturelle, comment alors ce conflit-là trouve-t-il son existence ou par quel processus vient-il à l'existence? Ma deuxième petite question, monsieur l'abbé. Au nom du principe africain, nous les Africains, nous disons qu'il y a la communion entre les vivants et les morts. Alors comment le Muntu que je suis, l'Africain que je peux évoquer le bien vivre ensemble sans évoquer les morts tués par Kagame, puisque chez les Africains, la communion entre les vivants et les morts est prouvée par la religion africaine. Alors, comment un Africain, un Muntu, pourra-t-il évoquer le bien vivre ensemble sans évoquer le problème de nos morts qui nous ont été enlevés par l'ennemi que j'ai cité si haut? Bref, le bien vivre ensemble chez un Africain devient une utopie ou un problème alors sans la présence de nos morts? Et pour ma troisième petite question, monsieur l'abbé, le bien vivre ensemble, selon moi, doit être une vision holistique, c'est-à-dire qui englobe le tout, c'est-à-dire l'humain, la nature et le cosmos doivent être en harmonie. Alors, d'où ma question, est-ce que la terre congolaise, en ce moment où nous parlons, qui a tant avalé le sang des Congolais, est dans le bien vivre avec d'abord le Congolais lui-même et surtout aussi avec l'ennemi? Comment purifier alors la terre congolaise pour qu'elle soit aussi dans le bien vivre avec nous et aussi avec l'ennemi qui est venu verser ce sang-là sur la terre de nos ancêtres? Et pour finir, que dire lorsque la différenciation entre en ligne de compte dans le vivre ensemble et quelles sont les retombées de la différenciation dans le vivre ensemble? Merci beaucoup, M. l'abbé. Pour le moment, je m'arrête là.
Merci beaucoup à Joseph Desmarie. Bon, c'est toujours beaucoup de questions et bon, parfois il y a des questions qu'on oublie. Si maintenant il m'arrive d'oublier une ou deux, bon, Daniel pourra me rappeler. D'abord, vous me demandez comment on peut comprendre les conflits. Les conflits. Est-ce que les conflits, c'est une réponse d'une relation qui a échoué? Ou en tout cas, par quel principe, je crois, on peut mettre fin à un climat des conflits. D'abord, les conflits, à mon humble avis, peuvent être définis comme une situation où deux ou plusieurs parties ont des intérêts, des besoins, des opinions, peut-être des valeurs ou des objectifs contradictoires. Quand vous et moi, on ne réfléchit pas de la même manière, il s'agit là d'un conflit. Le conflit, ce n'est pas seulement le fait de se chamailler, de se battre. Non, ça peut aussi être au niveau des idées. Et cela peut entraîner, comme vous l'avez dit, un échec dans les relations. Et donc, il est important de bien comprendre la source d'un quelconque conflit. Parce que les conflits, ça peut être une réponse à des divergences. On ne se comprend pas, et bien chacun emprunte sa direction. Lorsqu'on en face des intérêts opposés, hein, deux personnes peuvent désirer la même chose, ce qui crée un conflit. Moi je veux prendre, toi aussi tu veux prendre, mais on n'a pas les mêmes intérêts. Il y a aussi des valeurs et des croyances. Vous voyez, on a des valeurs, des croyances contradictoires. Voilà, cela peut être, cela peut créer un conflit. Le conflit, c'est donc un échec relationnel. Ça ne signifie pas toujours un échec de la relation, mais ça peut plutôt être un signal que les relations sont tendues et qu'elles nécessitent une attention particulière. Lorsqu'on a pris conscience de cela, lorsqu'on s'est mis ensemble autour d'une table, en ce moment-là, on peut parvenir à intérêt d'entente, c'est-à-dire on fait des concessions, vous voyez. Et lorsqu'on a fait des concessions, on a bien compris, comme je l'ai dit tantôt, on a bien compris les intérêts des uns des autres. En ces moments-là, on peut se décider de faire route ensemble. Alors, les vivre ensemble, est-ce une utopie ou quoi? Bon. Les vivre ensemble peut être perçu hein, de différentes manières, hein, selon les contextes et selon les perspectives. C'est aussi d'ailleurs la question suivante lorsque vous parlez du Muntu. Hein? Ici, il s'agit de la religion traditionnelle africaine. Vous engagez même la conception de la mort chez l'Africain. C'est vrai que chez nous, les morts ne sont pas morts, mais nous sommes dans quel concept, dans quel contexte, hein? Donc l'idée de vivre ensemble, quand c'est une utopie, elle repose souvent sur les réalités humaines. Par exemple, il y a des divisions sociales et ethniques. Dans des sociétés où les groupes sociaux ethniques sont profondément divisés, la réconciliation et l'harmonie peuvent sembler impossibles. Vous voyez, on est vraiment divisé, on se dit mais on ne se comprend pas. On se dit, comment on peut se mettre ensemble? Les vivre ensemble dans ces contextes-là peut devenir une utopie. Il y a les conflits d'intérêts de pouvoir. Dans des contextes politiques ou économiques, où les inégalités sont profondes, certaines personnes peuvent considérer qu'un véritable vivre ensemble est un rêve, comme tu l'as dit. C'est une utopie. C'est possible. Il y a
la montée de l'individualisme dans un monde de plus en plus centré sur l'individu. Chacun cherche ses intérêts. Eh bien, le vivre ensemble peut devenir une utopie. Alors, pour qu'on n'en arrive pas là, voilà pourquoi, dans mon exposé, j'ai bien dit ceci, le bien vivre ensemble, condition pour la paix. Il s'agit donc de bien comprendre ces principes. Si nous voulons parvenir à la paix, si nous voulons que cela ne soit pas une utopie, alors, nous devons être vrais et sincères. Il faut vraiment nous puissions parvenir à une cohabitation harmonieuse entre nous, individus, absolument. Il faut que cela soit fondé sur le respect mutuel. Il faut que cela soit fondé par le respect des engagements pris. Absolument. Il faut que cela soit fondé sur cette démarche qui doit nous conduire réellement vers la paix. Et cela est important. Cela est vraiment important dans un contexte comme le nôtre, hein, en RDC. C'est important. Voilà. Alors, quelle question encore
La terre congolaise rentre-t-elle dans cette dynamique de vivre ensemble après avoir avalé tous ces sangs de Congolais?
Ah, mais là, j'ai parlé de... Ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Hein. Donc, il y a d'une part le contexte religieux. On a parlé de la religion traditionnelle africaine, mais il y a aussi le contexte politique. Vous voyez, quand il s'agit, par exemple, de la guerre, eh bien, la guerre... Lorsqu'on a déclaré la guerre, lorsqu'on a pris les armes, eh bien, là, ça devient un autre contexte. Alors, quelque part, vous avez dit, Joseph de Marie, que les vivre ensemble est pour vous, c'est une vision holistique. Effectivement, hein, les vivre ensemble est une vision qui va au-delà, bien au-delà d'une simple coexistence ou d'une tolérance superficielle. Il s'agit d'un concept qui inclut tous les aspects de la vie humaine, vous l'avez dit, la vie spirituelle, la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle, et puis bon, et même politique, j'en passe. Allez. Cette vision holistique n'a pour but que de chercher à créer une harmonie entre les individus. Donc, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, ça englobe ensemble. Mais tout cela a un but. Le but, c'est de créer une harmonie entre les individus, entre les communautés. C'est cela. Même quand vous parlez du sang qui a été répandu, le sang du Congolais, des gens qu'on a tués par des gens que tu as cités, mais qu'est-ce qu'on vise lorsque nous voulons parvenir à un pacte comme celui proposé par les évêques, un pacte social pour bien vivre ensemble. L'objectif, c'est parvenir à une coexistence pacifique, mais aussi parvenir à une vision sociale dans le cadre de l'inclusion et la justice. Vivre ensemble dans une perspective qui n'exclut personne. Hein, nous nous mettons tous ensemble. Chaque personne doit avoir accès aux mêmes opportunités et que personne ne doit être exclu en raison peut-être de sa provenance sociale, en raison de son statut socio-économique, de son sexe, de sa religion, de sa tribu, etc. Donc personne ne doit être exclu. Et même sur les plans économiques, hein, pour parvenir à ça, même quand vous dites comment purifier, pour purifier, mais il faut tout cela. Pour tout cela, on doit se mettre tous ensemble. Nous allons combattre l'injustice. Nous allons combattre les inégalités sociales. Voilà pourquoi, même sur le plan économique, il faut insister sur les valeurs comme le partage et l'équité. Vous voyez, Cela doit impliquer de s'assurer que les ressources sont partagées de manière juste et équitable. Voyez, c'est cela d'ailleurs qui crée le conflit, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure. Lorsqu'il n'y a qu'un groupe de gens qui se retrouvent, et la majorité des gens ne se retrouvent pas, souffrent, ça va créer un conflit. Et ces conflits peuvent nous amener à des situations justement de guerre, comme ce dont nous souffrons actuellement. Donc, bref, le vivre ensemble reste un principe fondamental et capital si nous voulons parvenir à la paix. On ne parviendra jamais à la paix si on ne s'implique pas dans ces processus-là. Processus qui nous conduira à une cohabitation harmonieuse et pacifique entre individus, entre communautés. Et cela doit être fondé sur des valeurs que je venais de citer tantôt, le respect mutuel, la tolérance, etc. C'est tout cela qui nous permettra de parvenir à un véritable vivre ensemble.
Merci, fidèles auditeurs. C'est déjà la fin de cette catéchèse. Nous allons revenir à M. Nabi pour la conclusion et la prière de clôture.
Oui, nous l'avons dit, chers fidèles auditeurs, chers internautes, tout en remerciant tous nos frères et sœurs qui ont participé à cette catéchèse, les vivre ensemble, c'est un principe fondamental pour la paix. Et les vivre ensemble est ancré dans les enseignements bibliques. Nous sommes invités, chacun à ce qui les concerne, à déployer des efforts pour promouvoir ces principes. Commençons d'abord dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux professionnels. Nous allons déployer des efforts pour que ces principes du bien vivre ensemble soient une réalité, pas une utopie, comme le disait tantôt Joseph de Marie. On ne doit pas vouloir une chose et faire son contraire. Non. Ce que nous voulons, nous tous, c'est parvenir à un bien vivre ensemble. C'est alors que nous parviendrons à la paix véritable. Mais aussi, c'est la condition sine qua non si nous voulons construire notre pays. Et il est essentiel que nous puissions encourager les initiatives qui sont déjà mises sur pied, notamment cette démarche qui va nous amener vers le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Prions pour cela. Demandons à l'Esprit-Saint d'accompagner nos pères pour qu'ils parviennent à mettre toutes les parties ensemble. Ainsi, nous parviendrons à la paix et à la paix véritable. Là où nous vivons, là où nous travaillons, dans nos maisons, eh bien, veillons sur des valeurs comme le respect mutuel, comme la solidarité, comme la tolérance. C'est cela qui nous permettra de parvenir à la construction d'une société harmonieuse et pacifique. Que le Seigneur nous y aide.
Merci beaucoup, fidèles auditeurs. Après avoir suivi ces enseignements importants sur les bien vivre ensemble, nous allons nous mettre dans les conditions pour la prière de clôture.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour infini et pour la richesse de tes enseignements. Tu nous appelles à vivre ensemble dans l'harmonie, le respect et l'unité, à aimer notre prochain comme toi-même sans distinction et à bâtir des ponts de paix là où il y a des murs de division. Nous te prions pour toutes nos communautés, spécialement nos frères et sœurs, du Nord et du Sud qui font, qu'elle soit animée par ton esprit de fraternité et de réconciliation. Et donne-nous la force de surmonter nos différences, d'écouter ceux qui sont différents de nous et de vivre ensemble dans la vérité et la justice. Sois avec nous, Seigneur, et fais que ton Esprit Saint nous guide. Toi qui es Dieu, qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Merci, monsieur l'abbé. Merci, fidèles auditeurs. Et merci aussi à Virgin Sagala qui est à la régie et pourquoi pas tous les régisseurs dans nos différentes sous-stations. C'était la catéchèse du jour, fidèles auditeurs, autour du thème le bien vivre ensemble, conditions pour la paix, contexte biblique et historique. Merci donc de l'avoir suivi et restez fidèles sur les ondes mariales. Au revoir.
Si nous sommes arrivés chez vous, c'est grâce à vos dons. Veuillez continuer à soutenir Radio Maria et dont la Vierge Marie à nous aider.
Soki linakalie lisepeli sibino ezali pona libunza na bino. Tokoba kusunga Radio Maria. Radio Maria, Radio Nanga, Radio Yayo, Radio ya biso banso.
Vous venez de suivre la catéchèse du Père Directeur, la rediffusion de lundi à vendredi à 21h.